VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Un journaliste britannique d'Al Jazeera, Hamza Mohamed, a été libéré aujourd'hui, 48 heures après son arrestation à Mogadiscio par les services de sécurité somaliens. C'est ce qu'a annoncé la chaîne de télévision qatarienne sur son site internet. Le journaliste avait été arrêté mardi alors qu'il se trouvait en Somalie pour son travail depuis une semaine. Les autorités somaliennes avaient confirmé à Al Jazeera l'arrestation de M. Mohamed ainsi que de son caméraman, de son chauffeur et de son fixeur. En RDC, l'opposition se dit largement satisfaite de la réussite de la journée Villemort d'hier à laquelle elle a appelé sur toute l'étendue du pays. Écoutez les sentiments de Joseph Olengakoy, les membres du Conseil des sages de la plateforme Rassemblement.
Dans mon évaluation, je crois que c'est comme l'évaluation de tous les Congolais et tous les partenaires qui habitent le Congo. Venez de remarquer que notre peuple vient de répondre massivement à l'appel lancé par le rassemblement. Toutes les villes sur toute l'étendue du pays ont été paralysées. C'est mercredi 19. Nous venons de donner un grand message. C'est pour dire au gouvernement que l'accord qui vient de signer au Katiati, à la cité de l'OIA avec M. Kodjo, ne sera jamais d'application à la République démocratique du Congo. C'est un rejet total. Deuxièmement, nous réclamons un dialogue dans l'esprit de la résolution 2277. L'Assemblée de notre peuple a répondu à l'appel de rassemblement et a jeté son désaveu sur la continuité du régime de Kabila. Toutes les villes ont répondu au grand message du rassemblement. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a eu ni quelconque tentative d'ouverture de quoi que ce soit.
Joseph Olengakoy du rassemblement au micro de nos partenaires de Top Congo FM. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a estimé hier que l'opération Sangaris en Centrafrique a été un succès et qu'il faut passer le relais à l'ONU même si la stabilité n'est pas totalement revenue dans ce pays. La Centrafrique peine à se relever du chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par le renversement du président François Bozizé par des rebelles Séléka, majoritairement musulmans. Cela avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. Des groupes armés sont toujours actifs dans le pays. Environ 350 militaires français équipés de drones d'observation resteront présents en République centrafricaine, dont une centaine pour appuyer la MINUSCA. Le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale ne va pas interrompre le travail de la procureure déjà entamé sur les crimes commis depuis avril 2015 selon l'ONU. Adama Dieng, conseiller spécial des Nations Unies sur la prévention du génocide, affirme que la justice internationale garde un œil sur la situation des droits de l'homme au Burundi.
Les effets de ce retrait ne sont pas rétroactifs. C'est-à-dire donc que tous les crimes qui ont été commis pendant cette période, jusqu'à un an après la notification auprès du secrétaire général, feront l'objet de cette enquête. Et bien entendu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas état partie à la CPI que les individus auteurs de crimes ne seront pas poursuivis. Il y a eu des précédents, tels que le Soudan, qui n'était pas parti et dont certains de ses responsables se sont retrouvés mis en accusation devant la CPI. Et c'est pourquoi il me semble important que tout soit mis en œuvre pour que le Burundi puisse coopérer afin que les auteurs des crimes commis puissent être poursuivis devant les juridictions compétentes.
Adama Dieng, conseiller spécial des Nations Unies sur la prévention des génocides. Au Tchad, des députés ont déposé hier une motion de censure contre le gouvernement. Ils s'opposent aux mesures prises pour gérer la crise sociale et économique. Le gouvernement veut geler des primes et indemnités de recherche des enseignants pour 18 mois, supprimer les bourses d'études et réduire les indemnités des parlementaires. Matungwe Benelga, député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, qui a introduit la motion de censure, explique son action.
Que ce soit de la majorité ou de l'opposition, nous devrons poser certaines questions à ce gouvernement. Nous avons d'abord, dans une diplomatie parlementaire, essayé simplement d'interpeller le gouvernement pour échanger, puisqu'il n'y a pas d'issue. Et nous avons déposé la motion de censure qui devrait être transmise au gouvernement, qui doit répondre rapidement dans un délai, mais c'est dans pas 3 jours. C'est des moyens que la Constitution nous a permis, en tant que parlementaires, de contrôler l'action du gouvernement. Ce n'est pas une volonté affichée pour renverser le gouvernement, mais que le gouvernement s'explique. Mais s'il n'arrive pas à s'expliquer et nous donner des arguments convaincants, je crois que les parlementaires que nous sommes seront obligés de voir dans quelle mesure d'amener le gouvernement dans la raison et à la raison.
Matungwe Benelga, député de l'Union nationale pour le développement et le renouveau au Tchad.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
présidentielle américaine, Donald Trump a manqué, d'après les observateurs, une occasion de prendre l'avantage lors du dernier débat de la campagne présidentielle contre Hillary Clinton, sémant le trouble par sa menace de refuser le verdict des urnes le 8 novembre, une attitude provocante au moment où l'écart se creuse avec Hillary Clinton, dont la cote dans les sondages est au plus haut depuis son investiture en juillet. Elle recueille plus de 45% des intentions de voix contre 39% pour Donald Trump et 6,5% pour le libertarien Gary Johnson. Une quinzaine de personnes issues de l'immigration, originaires de divers pays, a préparé une discussion ici même à la Voix de l'Amérique après le troisième débat. L'une d'entre elles, Angèle Kouemo, originaire du Cameroun, est directrice pour l'Afrique du Washington Media Group.
Il y a un jeune homme du Moyen-Orient qui a dit que la politique d'Hillary, les projets qu'elle proposait n'étaient pas acceptables. Il a reconnu, il était d'accord avec Donald Trump en disant que la politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient était une erreur. Mais ce que je lui ai demandé après, c'était de savoir, ok, d'accord, on est tous d'accord qu'on a un problème au Moyen-Orient, mais on a un projet, on a un plan, celui d'Hillary, on n'a pas de plan de la part de Donald Trump.
Le candidat Donald Trump a aussi fait savoir qu'il attend de voir les résultats de la présidentielle avant de se prononcer sur leur validité. Comment est-ce que cette position a été interprétée?
Ah oui, là j'ai rigolé, parce que sur cette question-là, j'ai fait un petit commentaire en disant que nous, les immigrés, on vient ici avec, on a un idéal de démocratie, on vient ici parce qu'on s'imagine que c'est un système qui est parfait, mais l'élection de cette année nous montre bien les limites de démocratie, parce qu'on ne sait pas trop quels en seront les résultats. On n'arrive pas vraiment à comprendre quels sont les plans, les projets que les candidats nous présentent. Et en plus de ça, il y en a un qui a plein de casseroles dans son passé, qui n'est pas articulé, qui insulte tout le monde. Mais le personnage de Donald Trump est plus ou moins intéressant. Je ne dirais pas qu'il a des chances de remporter les élections, mais il est bien parti pour rendre la victoire d'Hillary plus ou moins difficile.
Vous étiez un groupe de personnes issues de l'immigration. Comment avez-vous vu les positions des deux candidats concernant l'immigration?
Par rapport à l'immigration aussi, j'étais aussi plus ou moins surprise de voir que quelques-uns parmi nous étaient d'accord avec Donald Trump. Mais je leur ai dit que c'est vrai qu'il faut, bâtir le mur. C'est vrai que tout pays a besoin de protéger sa territorialité, sa souveraineté. Mais faire un plan d'immigration sur la base d'une petite minorité de criminels, à mon sens, n'est pas très intelligent. Mais en général, je pense qu'on est, ils sont tous d'accord avec le plan que Hillary a présenté sur une approche globale d'immigration avec la protection des frontières, l'application des textes de loi, créer une avenue de légalisation pour les immigrés qui sont là, sur la base de ce qu'il faut protéger les familles, comme elle a bien articulé, il faut protéger les familles, protéger les enfants, protéger les cohésions sociales. Bien entendu, elle a aussi relevé l'apport économique des immigrés ici, en concluant de façon plus ou moins ironique que des illégaux ici aux États-Unis payent plus d'impôts que les milliardaires comme Donald Trump.
Angèle Kouemo, originaire du Cameroun, au micro de Timothée Donangmaï. La trêve humanitaire décrétée par Moscou à Alep est entrée en vigueur ce jeudi, mais aucun habitant des quartiers rebelles n'avait emprunté dans l'immédiat les couloirs établis pour évacuer les civils et les rebelles qui le souhaitent. Depuis le début de la pause humanitaire à 8 heures, des tirs d'artillerie et d'armes automatiques incessants avaient lieu dans le couloir près du quartier de Boustan al-Kasser, contrôlé par les rebelles. Selon l'AFP, la télévision officielle syrienne a fait état de blessés, selon trois selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est ouvertement inquiété hier de la possibilité que le président américain Barack Obama ne prenne une initiative de dernière heure sur le conflit avec les Palestiniens et sur la colonisation. La classe politique israélienne s'interroge depuis des mois sur l'éventualité que M. Obama, frustré par la paralysie de l'effort de paix entre Israéliens et Palestiniens et par la poursuite de la colonisation, ne soit tenté de laisser sa marque sur le dossier en fin de mandat. Après des années de relations tendues entre messieurs Obama et Netanyahou, l'administration Obama a récemment durci le ton sur les colonies, accusant ouvertement Israël de faillir à sa parole. Et l'Iran a démenti aujourd'hui avoir joué un rôle dans les récentes attaques de navires américains au large du Yémen, qualifiant des accusations en ce sens venues de Washington de fausses et paranoïaques. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes, en compagnie d'Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.